Bonjour et bienvenue dans Du vent sous la robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Pour cet épisode, j'accueille Enke Kebede. Bonjour Enke, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour.
Enke, vous êtes directrice de l'École régionale des avocats du Grand Est, autrement dénommée l'ERAJ, au sein de laquelle vous avez créé la première école de l'innovation pour les élèves avocats en France. Le défi que vous êtes fixé, préparer les élèves avocats à relever les nouveaux challenges résultant des profondes mutations technologiques, économiques et réglementaires auxquelles la profession d'avocat est confrontée. À vous seul, vous semez donc un vent d'innovation inspirant. Enke, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours et de ce qui vous a conduit à vous intéresser au droit et à l'innovation ?
Merci infiniment déjà pour ça, merci pour cette invitation au podcast.
C'est merci un plaisir pour moi.
Merci beaucoup. Alors merci aussi pour votre aimable présentation. Alors pour vous expliquer un petit peu mon parcours, donc je suis juriste, je suis arrivée à l'ERAJ un petit peu par hasard, pour être tout à fait honnête. On m'a proposé le poste un vendredi soir, c'était lors des regroupements des écoles, sans vraiment me connaître, pour être honnête. Et donc le lundi matin, il fallait que je prenne le poste de la direction de l'école. Et c'était un vrai challenge. L'intérêt pour moi à l'époque, c'est que je partais d'une feuille blanche. Je n'avais strictement rien. Il y avait un nouveau cursus, une nouvelle réglementation, un nouveau parcours. Il fallait créer de nouveaux locaux. On n'avait même pas de locaux. Et j'avais un papier et un stylo. Donc j'ai fait ça pendant les deux premières années. J'avoue que c'était assez complexe. Il fallait être architecte, ingénieur pédagogique, très très diplomate parce que c'était un regroupement de 27 barreaux à l'époque, donc c'était vraiment un challenge. Donc avec le recul aujourd'hui, je me dis effectivement il fallait avoir une sacrée confiance en soi et surtout la tête froide, je pense. Et au fur et à mesure, effectivement, on a fait évoluer l'école. L'école de l'innovation, c'est beaucoup plus récent. Mais globalement, ma conception de l'école, c'est que l'école, par principe, quelle qu'elle soit, doit avoir de l'avance parce qu'on forme, par définition, des jeunes qui vont exercer dans les 20-30 années à venir, même si c'est plus le cas aujourd'hui, mais en tout cas pour l'avenir, donc on doit les former pour un exercice d'avenir, par définition. C'est ma conception de l'école, d'où la naissance de l'école innovation.
Est-ce que vous pouvez nous dire quand et pourquoi vous avez créé l'école de l'innovation ?
Alors l'école innovation, la genèse, il faut quand même que je vous dise d'où c'est parti, c'était à la lecture d'un article en 2014. Et l'article disait clairement que d'ici 2030, la nouvelle technologie va complètement bouleverser l'exercice de la profession d'avocat. Et que si on ne forme pas les jeunes, ils seront définitivement au chômage. Et l'article expliquait en plus que l'intelligence artificielle ne demande pas de congé de maladie, n'est pas fatiguée, peut travailler 24 heures sur 24. Donc forcément, tout ça va bouleverser la vie des jeunes avocats en tout cas. Donc il fallait soit réagir, soit arrêter et faire autre chose. Donc c'est venu de là. Et donc on a commencé au tout début à créer un programme en se basant essentiellement sur un rapport qu'on avait fait en 2016. Avec un groupe d'élèves, on a co-écrit un rapport qui s'appelle « L'avocat post-révolution numérique » où on a recensé toutes les innovations possibles et imaginables avec déjà à l'époque ce qui se passait dans le monde. Et à partir de là, on a décliné des compétences et donc un programme de formation. Et c'est là qu'on a lancé l'école de l'innovation.
D'accord, donc c'est vraiment né de cette lecture, de cette prise de conscience que vous êtes intéressé à l'innovation. Vous vous êtes dit, il faut absolument qu'on intègre un volet de formation sur ces sujets au sein de l'école pour préparer les futures générations à toutes ces transformations qui se profilent.
Tout à fait.
Le parcours de formation que vous avez conçu pour l'école de l'innovation est lui-même innovant, puisque les élèves avocats doivent créer leur cabinet d'avocats virtuel. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Juste pour revenir là-dessus. Quand on l'avait créé, en 2016, c'était effectivement l'école de l'innovation. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un module à part. Toutes les formations qu'on faisait avant sont complètement intégrées dans la formation de base en termes de management de cabinet d'avocats. Maintenant, c'est complètement transversal. Parce que c'est plus innovant, en fin de compte. Dans le parcours de base en management de cabinet d'avocats, dès pratiquement la première semaine, on leur demande de créer leur cabinet virtuel. On leur donne, déjà dès le premier jour, tout ce qu'ils doivent payer dans la vraie vie, voilà. Ouais. Et on leur demande de gérer ça, donc il faut qu'ils s'occupent de tout. Ils créent leur logo du cabinet, les papiers en tête, tout. Oui, le site, les réseaux sociaux, etc. Donc au début, ils n'ont que le cabinet et le logiciel sur lequel ils travaillent. Mais au fur et à mesure des ateliers qu'ils font,
Par exemple, ils font un atelier en design thinking, un atelier en business model innovant, un autre en marketing digital, etc. Donc, au fur et à mesure qu'ils font les ateliers, ben, ils améliorent. La séance d'atelier, c'est l'occasion pour eux de créer leur site, leur modèle économique, leur marketing. Voilà. Ils ne se basent pas sur des cas pratiques ou autres faux qu'ils appliquent pour leur propre cabinet.
Oui, d'accord. Donc, en fait, ils s'inspirent des autres enseignements qu'ils peuvent avoir et ils créent à partir de ça leur cabinet rêvé.
Voilà, c'est ça. Donc, on leur donne la possibilité, en étant à l'école, de pouvoir créer effectivement le cabinet dans lequel ils veulent exercer. On est parti sur le cabinet individuel qu'ils vont créer eux. Hein. C'est pas qu'on les incite à créer tous des cabinets.
Vous disiez tout à l'heure qu'ils ont, dans le cadre de leur formation, un atelier en business model innovant pour créer leur modèle économique. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Alors, nous, en ce qui nous concerne, pour les cabinets d'avocats, aujourd'hui, globalement, c'est essentiellement du facturation taux horaire.
On rentre dans le nerf de la guerre.
Voilà, tout à fait. Et ça, aujourd'hui, c'est un petit peu la fin de la facturation taux horaire. Quoi ? Parce que les clients, aujourd'hui, veulent plus de transparence. Et la plupart des cabinets sont en train, enfin, je me base surtout sur les expériences anglaises ou américaines, sont complètement en train de sortir du taux horaire. Donc, les nouveaux business models sont très divers et variés aussi. Il faut pas coller tel business model parce que ça marche ailleurs. Il faut vraiment se poser des questions. Mais on a des business models, les premiers, pour les citer. C'était le cabinet à l'époque, en 134, qui est aujourd'hui le cabinet Bold, okay. Qui avait commencé avec le freemium. Donc, il y a une partie totalement gratuite de documentation, etc. Et on paye.
Ah oui, avec le projet jurismatique, c'est ça que voilà. Vous avez diffusé.
Et ça, c'était, je pense, dans la profession, en tout cas en France, la première innovation. Ça avait créé quand même un certain
mouvement.
Voilà, tout à fait. Et aujourd'hui, on a plein de cabinets qui font, par exemple, la facturation à l'abonnement. On a beaucoup d'autres business models. On a en mode SaaS, on a plusieurs types de facturation aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous voulez dire par en mode SaaS ?
Alors ça, c'est un peu comme les abonnements. Donc, je prends un exemple. On a comme client une direction juridique. Ben, ils payent un abonnement tous les mois, qu'ils aient des problèmes juridiques ou pas.
D'accord.
Et donc, moi, en tant qu'avocat, je suis disponible pour les aider sur tel ou tel point.
D'accord. Donc, c'est oui, il y a des mois où il peut ne pas avoir beaucoup de demandes et des mois où, au contraire, et donc c'est en illimité.
Voilà, c'est en illimité. Après, il y a des abonnements de différents niveaux, selon une estimation horaire. Là, c'est pour vous donner quelques exemples de business models qui existent encore aujourd'hui,
oui.
mais je pense que tout est à faire. Il y a des business models extrêmes qui existent en France, c'est le satisfait ou remboursé.
Ah oui, mais je crois que c'est le cabinet...
Je ne citerai pas, oui.
D'accord.
Oui. Et pour, parce que ça m'intéressait vraiment, et pour l'avoir vu, ça marche.
Et donc, ils remboursent vraiment ?
Ah oui, oui, oui. Les gens payent plus que prévu.
Ah, c'est dingue.
Oui.
Donc finalement, le fait d'avoir proposé de rembourser si les clients ne sont pas satisfaits, non seulement ils n'ont pas besoin de rembourser, enfin, a priori, mais ils vont gagner plus parce que les clients sont hyper contents.
Oui. Alors, c'est vrai que quand on dit comme ça, on a l'impression qu'on a juste mis ça et pas un prix. Non, c'est pas ça du tout. Il y a une vraie grille de satisfaction. Qu'est-ce que le client appelle satisfaction ? Donc, on fait une vraie grille qui est signée des deux côtés. C'est quoi la satisfaction ? Est-ce que vous voulez un mail d'information tous les jours ou pas du tout Qu'est-ce que vous attendez exactement, sans parler du résultat hein, ou pas du résultat. Mais il y a une satisfaction déjà de relation entre le client et l'avocat qui est mise sur une grille, une charte, que les deux signent.
Donc cette grille, elle est co-construite avec le client pour chaque client. C'est pas une voilà. grille type.
C'est une grille type, mais tous les clients, oui. Voilà, tous les clients n'ont pas les mêmes définitions de satisfaction.
Oui, donc c'est une grille qui est adaptée en fonction des besoins et des envies des clients et de ce que pour eux représente la notion de satisfaction.
Voilà. Et en fonction de ça, ben, à la fin, ben, il revoit cette grille et il décide, ok, vous n'êtes pas satisfait, mais effectivement, je n'ai jamais reçu de mail, donc vous êtes remboursé, ou vous avez été exceptionnel, je vous paye même plus que ce qui est prévu. Et ça marche, vraiment. Moi aussi, j'étais très sceptique, je dois l'avouer, mais pour avoir vraiment vu de près, ça marche. Donc c'est ça que je dis, il ne faut pas se limiter. Et c'est vrai, la personne qui a mis ça était basée sur un modèle en ligne pour des menuisiers, enfin un truc qui n'avait rien à voir. Donc c'est pour ça que je dis, il ne faut pas se limiter. Tout est possible. Voilà. Il faut vraiment tenter beaucoup de choses, mais pas juste coller à un business model d'un cabinet parce que ça fonctionne bien dans ce cabinet. Non, rapport à notre proposition de valeur, à nos valeurs, tout ça, c'est peut-être pas la même chose qui s'applique à nous.
Petite parenthèse, il s'agit ici du cabinet Bamboo & Bees créé par Marc Lipsquier. C'est un cabinet nomade qui propose effectivement des business models innovants comme le satisfait ou remboursé, le partenariat ou l'abonnement. S'agissant du système satisfait ou remboursé, juste une petite précision par rapport à ce qui a été dit. Chaque critère de satisfaction établi avec le client est pondéré par le client en fonction de l'importance qu'il revêt à ses yeux. Et au terme de la mission, chaque critère donne lieu à une note de la part du client. Si la note finale est inférieure à 75%, le cabinet rembourse l'argent qui a été versé par le client. Si la note finale est comprise entre 75% et 125%, l'argent du client est conservé par le cabinet. Et si la note finale est supérieure à 125%, un honoraire de résultat convenu à l'avance est versé par le client. Ce qui explique que les clients puissent parfois payer plus s'ils sont vraiment satisfaits. Mais c'est convenu à l'avance. S'agissant du système de partenariat, en fait, il y a une première partie de la prestation qui est payée en numéraire, donc en vrai argent, au début de la mission, et la possibilité ensuite de payer la deuxième partie en actions de la société, du client du coup, pour des startups par exemple. Ces actions sont émises à leur valeur numéraire et les actionnaires de la société, donc les clients, s'engagent à racheter les actions pour le montant de la deuxième partie du budget, augmenté d'un taux d'intérêt qui est convenu à l'avance, au terme d'une durée convenue. Donc ça aussi, c'est assez innovant. Pour plus d'informations, je vous invite à visiter le site internet du cabinet Bamboo & Bees, dont l'adresse sera retranscrite dans les notes de l'épisode. Pour en savoir plus sur le projet Jurismatic, je vous invite à écouter, si ce n'est pas déjà fait, la première interview consacrée à Alexis Debord, fondateur de Leganov et cofondateur de Hercules Legal Tech Agency, où il nous parle du projet Jurismatic à la 33e minute et 16 secondes. Le cabinet Bold Avocat propose également différents abonnements à ses clients et pour plus d'informations, je vous invite à visiter leur site internet dont l'adresse figure dans les notes de l'épisode. Donc dans le cadre de la création de leur cabinet virtuel, les élèves sont totalement libres d'inventer n'importe quel business model ?
À l'école, c'est un vrai bac à sable. Donc on laisse la liberté à chaque élève d'inventer complètement des business models. Après on les teste, on voit la faisabilité, si c'est faisable, pas faisable. En tout cas, on lève les barrières.
C'est ça. Ce que j'entends de ce que vous dites, c'est ce qui est vraiment important, c'est de ne pas rester dans ce qu'on connaît, mais d'explorer aussi d'autres domaines.
Ah oui, oui.
Vous parliez justement de l'exemple d'un menuisier qui finalement a conduit un nouveau business model pour les avocats, et c'est de se dire, ok, ça je trouve ça intéressant. Enfin, vraiment de laisser libre cours à sa curiosité et à sa créativité sans se mettre de barrières.
C'est ça. À l'école, l'avantage, c'est qu'ils sont dans un environnement quand même très bienveillant. On veut progresser avec eux, on n'a pas la solution, hein. On co-crée avec eux de toute façon. Les business models innovants, on leur donne quelques exemples, hein, mais on n'a pas tout. On leur dit tout est à créer, donc on va créer ensemble. Et surtout, il y a vraiment le droit à l'erreur. Donc, ils sont tous obligés de faire un business model pour le cabinet virtuel qu'ils gèrent à l'école. Ils essayent, ils testent, mais vraiment en temps réel, de voir la faisabilité ou pas. Donc, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ce sont que des simulations, même s'ils gère pendant l'école un vrai cabinet virtuel. On leur donne vraiment des montants de factures, etc. On leur demande d'appliquer des business models de leur choix. On leur dit tout est possible, sauf le taux horaire. Donc à eux de créer d'autres systèmes, d'autres moyens. Et des fois, c'est vrai, ça peut aller très loin. Mais on voit la faisabilité. Si déontologiquement, ça pose aucun problème, ben on y va.
Et est-ce que vous avez des élèves qui, en cabinet, donc soit en stage, soit en collaboration, ont conduit à justement modifier le business model de cabinet où ils étaient?
Ah oui, oui. On a des élèves qui ont changé complètement le business model des cabinets, même de très gros cabinets, ou qui sont associés dans des postes d'innovation.
D'accord, donc ça peut aussi être de créer un nouveau poste au sein du cabinet en lien avec l'innovation?
Oui.
Est-ce que vous auriez un exemple de poste ou de choses innovantes qui auraient été mises en place dans ce cadre-là?
Oui, alors on a par exemple un des élèves, c'est un grand cabinet national, en droit des affaires, qui effectivement avait pris l'élève au départ parce qu'il avait fait du droit fiscal, donc il devait être au département de droit fiscal, hein, logiquement. Mais au bout de 3 jours, quand ils ont compris tout ce qu'il a fait, et puis c'était un vrai esprit d'entrepreneur lui aussi, ben ils l'ont transféré au département innovation, qui est beaucoup plus transversal, et ils ont dit on te donne 3 mois, tu nous trouves le nouveau business model de notre cabinet. C'était quand même un gros challenge. C'est pas évident, hein. Des fois,
c'est
une
belle preuve de confiance aussi.
Oui, tout à fait. Mais c'est très intelligent de la part des cabinets d'avocats. C'est pas forcément qu'ils sentent quelque chose, mais au moins, c'est sûr, ils auraient réfléchi à des choses sur lesquelles ils n'auront jamais pensé. Et ça, c'est bien. C'est vraiment un atout. Bon, il s'est mis beaucoup de pression, bien sûr.
C'est normal.
L'avantage, c'est que tous nos experts sont vraiment disponibles pour tout le monde. C'est dans leur intérêt aussi. Donc, il a pu faire travailler tous les experts qu'il connaissait bien à l'école pour vraiment proposer au bout de 3 mois une vraie solution. Et même moi, je n'y croyais pas, mais il y est arrivé et c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Ça, c'est des choses un peu extrêmes peut-être. Mais on le voit même dans des cabinets, dans des petits barreaux, vraiment en province, où il y a des demandes, ne serait-ce par exemple de dématérialiser le cabinet d'avocat, ou des avocats qui exercent seuls par exemple, et qui prennent les avocats pour des missions, par exemple dématérialiser le cabinet d'avocat. Donc c'est très intéressant. Ils font de moins en moins de droits, je dois l'admettre, mais ils sont dans les cabinets pour vraiment impulser l'innovation, mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec la technologie. C'est plus un conseil de réflexion, par exemple. Il y a aussi un autre cabinet, c'était une élève qui était dans l'Ouest, où il y avait une vraie réflexion pendant 3 mois sur la nouvelle proposition de valeur du cabinet. Et les cabinets ont tout intérêt à prendre ces gens qui sont totalement extérieurs, qui ne connaissent pas le cabinet en arrivant. Donc forcément, ils ont une vision différente. 9. Voilà.
Et quand vous dites nouveau business model, l'exemple que vous citiez, ou cet autre élève avocat, est-ce que vous pouvez nous dire les grandes lignes de ce qu'ils ont proposé ?
Alors effectivement, c'était un cabinet 100% facturation taux horaire, hein, forcément. Et donc, il avait commencé déjà par leur présenter des autres méthodes de facturation existantes en place. Hein. Et ils n'ont pas pris un modèle. Mais ils ont décidé quand même d'expérimenter par département, parce que c'est un grand cabinet, donc par département et selon la clientèle et selon l'offre, d'abandonner progressivement le taux horaire. Ça, c'est déjà très très bien. Mais c'est vraiment un cabinet qui joue le jeu. C'est-à-dire, ils n'ont pas mis l'innovation pour l'innovation. C'était une vraie remise en cause. Donc, ils ont compris l'intérêt. Ben, ils ne savaient pas s'il y avait d'autres business models. Donc, c'est grâce à l'élève qui a fait une vraie synthèse, hein, avec le positif et le négatif, si c'est applicable dans tel département ou pas. En tout cas, une vraie revue des différentes méthodes de facturation existantes. Et à la suite de son rapport et de ses préconisations, ils ont décidé de mettre en place par département différents modèles.
D'accord. Donc, en fonction des départements, il y avait des modèles plus ou moins adaptés au mode de fonctionnement de chaque département.
Tout à fait.
Donc, en fait, c'est possible aussi d'avoir non pas une unité de mode de facturation, mais autant de modes de facturation qu'il y a de types de clients ou de besoins en fonction des départements.
Exactement. Le même cabinet, même sans être un très grand cabinet, hein, peut cibler et faire une facturation différente selon sa clientèle. Donc, avoir un business model différent selon ses cibles. Il y a beaucoup de cabinets qui ont des institutionnels et des particuliers.
Oui, tout à fait.
C'est possible de faire deux systèmes de facturation et de proposition de valeur différentes. Ouais.
Finalement, les cabinets d'avocats pourraient très bien organiser des brainstorming pour réfléchir ensemble avec leurs équipes à de nouveaux business models ou laisser la possibilité à chacun de proposer et de tester un nouveau business model.
Exactement.
On parle beaucoup de la saturation du marché du droit, du trop grand nombre d'avocats. Est-ce que vous pensez que les évolutions technologiques et sociétales constituent des opportunités de développement d'activité pour les avocats ? Et est-ce que vous avez des exemples en tête ?
Alors effectivement, on parle de la saturation du marché, qu'il y a trop d'avocats, etc. Moi, je n'y crois pas, je n'ai jamais cru à ça. C'est ce discours depuis 10 ans, 20 ans. Il y a une saturation parce que tout le monde fait la même chose. Oui, on est d'accord. Par contre, il y a un tel besoin d'avocats et de juristes dans des domaines. Je prends un exemple. On parlait qu'il y avait très peu d'avocats spécialisés en droit de la construction, tout bêtement. Donc il y a une vraie recherche. Personne n'arrive à recruter en France. Moi, j'ai des demandes de Parisiens, de Marseillais. En droit de la construction, alors je parle même pas d'innovation. Après, effectivement, il y a tout un pan de domaines de droit. Il n'y a personne, il n'y a pas de spécialiste. Il y a très peu d'avocats qui sont spécialistes de droit des robots. L'année prochaine, par exemple, on va travailler sur les objets connectés et le droit. Spécifiquement sur les objets connectés médicaux qui sont maintenant développés et proposés dans les EHPAD, etc. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'on a un des personnes avec qui on travaille qui a ce projet-là, qui a un projet national où il développe des objets connectés pour des malades du diabète, notamment. Et il m'a dit, bon, ça fait déjà 3 ans qu'il est sur le projet, il n'a jamais croisé de juriste ni d'avocat. Ça me semblait quand même stupéfiant.
Hein. Oui, effectivement. Voilà.
Et au fait, lui-même ne comprenait pas. Mais qu'est-ce que je vais faire avec un avocat? Je dis, mais il y a des tas de questions. Il n'a même pas eu le réflexe.
Mais donc, il n'avait pas cette conscience d'avoir un besoin juridique?
Pas du tout. C'est ça qui est marrant. Où il se dit, oui, après, une fois que j'ai tout développé et fini, bon, un jour, forcément, il faudra un contrat, éventuellement, oui, là.
Oui, mais du coup, ça peut remettre en cause aussi certains points dans la conception de l'outil.
Mais oui, mais puisque d'abord, il n'y a pas d'avocat visible dans cette matière-là, il y en a tellement peu. Et on n'en parle pas, ça c'est un petit peu le rôle des avocats, et ça c'est l'absence de communication des avocats, de dire oui, on est là depuis le début, le premier jour du projet, il faut qu'on soit là, sinon voici les conséquences. Il faudrait qu'il y ait une communication comme ça, ça rendrait service à tout le monde d'ailleurs.
Oui.
Donc voilà, il y a des pans de droit qui ne sont pas...
dont les professionnels du droit ne se saisissent pas. Et
pas du tout.
Il y a vraiment des opportunités développement d'activités là-dedans.
Exactement. On a par exemple eu des révélations sur des matières. Je donne un exemple. Une des élèves a trouvé une niche en disant « Mais en fait, oui, il n'y a pas un avocat spécialisé pour les influenceurs sur les réseaux sociaux. » Oui, donc c'est une niche. Elle faisait la propriété intellectuelle et elle s'est dit « Ben voilà, par exemple, moi, demain, mes clients, ça va être les influenceurs. »
Oui, donc il y a plein d'autres domaines émergents aussi.
Énormément. Des traditionnels et des émergents,
oui,
il y a tout.
Oui, traditionnels et émergents. Oui.
Mais on sait que demain, il y aura des voitures autonomes, il y aura des accidents. Qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas.
Oui, mais en termes de responsabilité...
Voilà. J'interviens aussi auprès du CCBE, auprès des 27 États membres et représentants de tous les barreaux, où j'ai fait des conférences sur intelligence artificielle et droit, en préconisant de faire un genre de laboratoire, mais au niveau européen. Que ce soit en termes de prestations, mais aussi qu'on réfléchisse, c'est-à-dire avec des vrais juristes, des universitaires, où on va où, on ne sait pas. Donc j'avais proposé ça en ayant pris 5 cas pratiques réels qui se sont passés en 2018. Un des exemples, voilà, un accident d'une voiture autonome aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a des spécialistes dans ce domaine? On ne sait pas. Toutes les entreprises hein, qui vont travailler sur les blockchains ont besoin, bien sûr, d'un avocat pour les conseiller là-dessus. Donc là, je pense à un cabinet à Aix, c'est Bruzo et Dubuc. Donc, il est le premier cabinet d'avocat à être payé en bitcoin. Ça, déjà,
ça, c'est
une autre innovation, tout à fait, oui.
On parle de facturation, mais il n'y a pas que le mode de facturation, il y a aussi le type de monnaie qu'on récupère.
Et c'était, je pense, ni voulu ni rien, mais je pense que c'est sorti dans la presse et ça a été très bénéfique pour eux, non pas pour les bitcoins, mais je pense que les entreprises qui travaillent sur les blockchains de façon générale se sont dit, ah bah tiens, eux, au moins, ils vont comprendre de quoi on parle.
Ouais.
Et ce n'était pas prévu au départ, donc maintenant, ils font du conseil pour toutes les entreprises, et il y en a de plus en plus hein, aujourd'hui, puisque la France a quand même un petit peu d'avance là-dessus, sur la législation concernant les blockchains de façon générale. Et voilà, ça fait une prestation juridique, par exemple. Là, en l'occurrence, c'est
oui,
de conseil,
là, c'est
hein,
conseil
tout à fait. Mais ça nécessite quand même de maîtriser effectivement tout l'environnement et l'écosystème.
Oui, bah finalement, c'est à partir de cette évolution, quelle opportunité moi je vais pouvoir créer pour mon activité.
Voilà, ça, soit en conseil, pour reprendre les blockchains, soit bah justement proposer des services blockchain, donc pour les dossiers de ses clients, ou la consultation de ses clients, etc. Voilà, ça c'est aussi une autre façon de voir, ou se faire payer en bitcoin, voilà. C'est encore une troisième voie. Il y a quand même beaucoup de choses à faire là aussi, ne serait-ce que sur les blockchains. Il y a des pans entiers de nouveaux droits à faire. Et peut-être ce qui me manque, peut-être, c'est que les institutionnels, les barreaux ou le CNB, de nous dire, voilà, il y a un manque, par exemple, en responsabilité médicale dans telle région, dans la construction ici, etc.
Ça oui, de plus informer sur les domaines où oui. Il y aurait besoin d'avoir des professionnels, effectivement.
Et on formerait, nous, en conséquence.
Et même, oui, à la fac, déjà.
Ah oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça, pour moi, l'innovation, c'est d'abord, un nouveau besoin qui n'a pas existé, voilà, c'était le droit des robots, ou un besoin du droit qu'il faudra complètement modifier et changer. Mais le troisième et l'essentiel, pour moi, c'est l'expérience client. C'est ça qui fait qu'on se dépasse aussi hein, pour trouver des solutions, et ça a du sens. Là, on comprend qu'il faut innover. Et moi, ce que je conseille hein, à la plupart des cabinets d'avocats, c'est déjà de voir leurs clients. Comment leurs clients se sont transformés? Ils ne sont pas restés comme avant, eux. Donc, ça donne une idée de ce qu'il faut faire.
Oui, de s'inspirer déjà de ce que les clients ont pu mettre en place comme nouveaux procédés, nouvelles méthodologies, etc.
Ça vous donne tout de suite une idée.
Il faut réagir. Si jamais ils ont... Oui. Et si jamais il n'y a aucun client qui avait ça, bah, ça peut être de leur proposer aussi, justement.
Ah oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est l'inverse.
Oui, non, mais je...
Pour être tout à fait honnête, c'est plutôt les clients qui obligent les cabinets à se transformer. Parce qu'eux se transforment, oui. Ils suivent, voilà.
Oui, forcément.
Et je ne parle pas que des institutions, je parle même des particuliers. La vie de quelqu'un, vous avez une clientèle entre 25 et 30 ans, vous imaginez ? Le changement et le bouleversement, donc il faudra s'adapter à sa vie. Entre Netflix, l'iPhone, l'iPad, vous avez tout à disposition, tout le temps. Vous ne pouvez pas comprendre qu'un avocat, il faut prendre rendez-vous, etc. C'est impensable.
Vous créez Netflix de l'avocat.
Bah oui, c'est ça. Bah oui, aujourd'hui, au cabinet ouvert 24 heures sur 24, tout le monde rigole, mais on y arrive. Hein.
Ça suit les évolutions sociétales. Tout ce qu'on propose maintenant, ça tend vers ça.
Mais oui, on commande tout sur Amazon à minuit.
Deliveroo, tout.
Mais voilà. Moi, je suis très âgée, hein, mais je me mets à la place d'un jeune qui a 25 ans, il ne peut pas comprendre. Hein. Il ne peut pas comprendre qu'on n'a pas la demande. Donc aujourd'hui, il y a des chatbots, oui, c'est bien. Mais on va y arriver.
Le cabinet ouvert 24 heures sur 24.
Voilà. C'est possible, hein, c'est une question d'organisation.
On pourrait imaginer des cabinets où finalement il y aurait des équipes de jour et des équipes de nuit comme à l'hôpital ou dans d'autres métiers. Plus en plus, il y a des gens qui travaillent mieux la nuit, enfin le soir.
Mais oui.
Il y a des rythmes différents. Et d'ailleurs,
mais évidemment.
Je pense que ça fait partie des choses qu'il faut prendre en compte en cabinet. Il y a des gens qui sont très efficaces le matin et d'autres qui ne le sont pas.
Voilà.
Et inversement avec le soir et la nuit. Et plus généralement, de pouvoir organiser son temps comme on veut, évidemment avec les contraintes des rendez-vous clients, etc. Mais en fonction du rythme de chacun. Et ça, pense que déjà, ça donnera un sentiment de liberté et de confiance qui est assez important.
Ah oui, tout à fait. On respectera le rythme de tout le monde. C'est pas obligé, mais il y a peut-être des gens qui sont intéressés. Là, pour moi, il y a un vrai créneau. Quand je vois, si on doit miser quand même sur la jeune génération et leurs habitudes. Il y a un vrai créneau du cabinet 24 heures sur 24. Les cabinets anglo-saxons, on vous répond à votre question l'heure qui suit. Oui, ça existe depuis un moment. Bon, il faut être raisonnable, voilà. Il ne faut pas dire toutes les secondes. Mais on vous répond à votre question juridique dans l'heure. Oui, ça existe. Et ça, malheureusement, la génération qui arrive vit dans ce monde-là, avec cette technologie-là, cette façon de vivre, hein, tout simplement. Oui. On ne peut pas dire, on prend rendez-vous même pour le médecin sur des plateformes.
Oui, sur Doctolib, c'est génial.
Pas comprendre que pour
ça,
l'avocat...
Ça, c'est vrai que c'est génial de... Il faut... Oui, bah, l'avocat doit se mettre à la page.
Voilà.
Et est-ce que vous pensez que le mode d'exercice et le management qui est proposé par les cabinets d'avocats, en tout cas l'essentiel des cabinets d'avocats, correspond à ce qu'attendent les jeunes avocats aujourd'hui ?
Ça fait un petit moment hein, que ça correspond plus. Il y a un vrai choc générationnel, hein. Entre les cabinets actuels qui sont organisés comme toujours et des nouvelles générations de leaders avocats qui arrivent en tout cas sur le marché qui ont d'autres attentes. Ils recherchent un sens déjà dans ce qu'ils font. Ils veulent bien sûr, comme on dit, tout le monde, l'équilibre vie privée et vie professionnelle. Personnellement, je trouve qu'ils ont raison. Mais ils cherchent surtout aussi beaucoup plus un mentor et un coach qu'un supérieur hiérarchique et une cascade de décisions auxquelles ils ne comprennent rien. Alors, au début, il y a eu une vraie réticence de la part des cabinets d'avocats aussi qui ne comprenaient pas du tout ce fonctionnement. Avant, tout le monde rentrait dans le moule, on ne disait rien et on exécutait.
Et quelle est cette nouvelle rébellion ?
Voilà, et ils se sont dit, ce n'est pas possible. Donc, il y a eu un vrai problème. Et les élèves qui, de toute façon, partaient. Ça ne convenait pas, ils partaient. Aujourd'hui, je vois un petit peu un retournement de situation parce que comme il y a eu tellement de difficultés de recrutement dans les cabinets et un turnover incroyable, les jeunes y restaient 6 mois maximum. Hein. Donc, c'était devenu un travail à plein temps hein, de recruter des jeunes. Maintenant, ils commencent à se poser des questions en disant « Mais c'est quoi le problème, en fait ?» Et ils ont compris. En tout cas, ils commencent à comprendre. Moi, je reçois beaucoup d'appels, beaucoup de cabinets, des grands, des petits, ils me disent, mais ça fait 6 mois, 2 ans que j'arrive pas à recruter, le dernier est parti, j'ai pas compris pourquoi. Enfin, avant, il y avait beaucoup d'élèves. Hein. Il y avait le nombre, il n'y avait pas de problème, ils partaient, on prenait un autre, etc. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Et donc aujourd'hui, il y a un vrai retournement et les cabinets veulent savoir comment. Moi, je passe beaucoup de temps à leur expliquer. C'est un fait, hein. Je suis ni pour ni contre. Pour certaines choses, je suis absolument d'accord avec les jeunes. Mais en tout cas, c'est un fait. Mais par contre, si vous comprenez ce jeune-là et si vous comprenez ce qu'il veut, il peut être exceptionnel. Il se donne beaucoup plus. Donc, ce n'est pas des révolutions à faire. C'est de ne pas mettre un management hiérarchique. Voilà, ça, les gens en oublient, ce n'est pas la peine. Si le jeune a un hobby, tous les vendredis après-midi, il doit aller au foot, eh ben, il faut accepter le principe qu'il faut qu'il aille au foot. Voilà, c'est un fait, c'est important pour lui. Mais ça ne veut pas dire qu'il travaille en dilettante. Hein. Il peut se dépasser complètement pour justement partir le vendredi faire le foot. Et c'est beaucoup de choses comme ça, et surtout un sens. Voilà. Il faut aussi un sens. Il y a 2 ans, j'ai vu aussi beaucoup l'effet très important et l'impact très important du développement durable. Voilà, un cabinet d'avocat où il n'y a pas cette notion, au moins, de prise en compte de l'écologie basique. Et j'ai eu, hein, mais concrètement, hein, vraiment, des élèves qui ont quitté des cabinets d'avocats pour ces raisons-là. Hein. Vraiment.
Oui, mais ils partageaient pas les valeurs.
Voilà. Et c'est comme ça. Heureusement qu'il y a ces valeurs aussi qui sont défendues. Pour vous donner un exemple, l'année dernière, on a commencé un projet RSE pour l'école. Donc, il fallait vraiment retravailler tout ce qui est le volet solidarité et aussi développement durable. Et ça, sincèrement, c'est une initiative des élèves. Hein. C'était même pas une initiative de l'école. Ils ont trouvé scandaleux qu'on ait encore des gobelets en plastique. Et dès le lendemain, j'ai fait un groupe de travail. J'ai dit, OK, on y va. Et ils ont fait un travail fabuleux. C'est-à-dire, ils ont révisé toute l'école de fond en comble. Donc, il fallait changer beaucoup de choses entre les lumières, les gobelets, etc. Mais ils en ont fait un outil très intéressant, y compris de conseils pour les élèves en premier lieu, mais aussi pour les cabinets d'avocats. Donc, tout ce qu'il fallait changer et adapter en matière de développement durable. Donc, on les a pris au mot. Donc, on a intégré ça maintenant. Et depuis l'année dernière, aujourd'hui, on ne prend aucun prestataire pour tout, toute l'école, qui ne soit pas conforme à cette charte. Tous les prestataires, maintenant, passent par leur grille et leur cahier des charges. Voilà.
C'est tout à fait transposable à un cabinet d'avocat.
Bien évidemment. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de prise en compte. Bon, c'est les débuts, hein, il y a encore beaucoup à faire. Mais en tout cas, ils ont compris. C'est-à-dire que s'ils ne faisaient pas cet effort-là de comprendre cette nouvelle génération, eh ben, ils ne pourraient plus capitaliser sur les nouveaux qui arrivent. Hein. Ils savent, ils vont partir au bout de ci.
Et donc, imaginons que j'ai mon cabinet,
oui,
et que j'ai envie de savoir qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça et pour donner envie aux jeunes avocats de venir dans mon cabinet et de rester, ce qui est important. Qu'est-ce que je peux faire concrètement?
Écoutez, je pense qu'il faut écouter, c'est-à-dire les entretiens d'embauche à l'ancienne, on voit le CV, on pose des questions sur est-ce que tu sais rédiger tel acte ou autre. Oui, il faut le faire, certes. Mais il faut aussi prendre en considération, ok, qu'est-ce que tu attends? On n'a jamais posé la question de l'autre côté. Hein. On s'est dit, voilà ce que le cabinet attend de vous, il faut savoir être là, à l'heure, rédiger, etc. Et jamais on a dit, qu'est-ce que toi tu attends? Il faut peut-être déjà commencer par ça. Et là, écoutez, ça peut choquer, hein, des fois, mais il faudra écouter, il faut prendre sur soi et écouter. Hein. Donc, ça peut être, voilà, pour moi, il faut absolument que je fasse telle activité tel jour. Hein. Donc, si vous leur dites, OK, on vous propose ça, une telle liberté ou autre, à tester. Je ne dis pas que ça marche, mais à tester. Mais écoutez, en tout cas, écoutez ce qu'ils veulent. C'est extraordinaire, extraordinaire si on laisse la possibilité à des élèves vraiment de faire partie. Il faut qu'ils se sentent chez eux. Une fois qu'ils se sentent chez eux, ben, ils ont force de proposition. Puis on a cette chance incroyable d'avoir 100, 200 élèves qui ont des compétences extraordinaires dans les matières juridiques, mais pas que. Si on a un groupe de musiciens, c'est aussi valorisé. Donc on a chaque année des groupes de musiciens ou de comédiens qui organisent des spectacles, de la musique.
Donc vous avez vraiment à cœur de mettre en valeur tous les talents et toutes les compétences, et pas uniquement juridiques.
Voilà. La vraie démarche, c'est de dire des élèves épanouis seront les meilleurs juristes. Voilà, ça c'est le principe de base.
Oui, mais c'est très vrai.
Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième chose, c'est que malheureusement, les élèves ne font pas de lien entre leur passion et les domaines de droit dans lesquels ils veulent exercer. Et des fois, il y a des passerelles à faire. Quelqu'un qui a un grand talent de musicien pourra faire quelque chose avec ça. Moi, je vois, enfin, à Strasbourg, on a quand même quelques cabinets qui ont mis en avant, même s'ils ne font pas que de la musique, hein.
Mais conseil juridique en musique.
Voilà, ils ne se sont pas spécialisés que dans le conseil pour les musiciens. Mais c'était des atouts et ils ont certainement des clients qui viennent pour ces raisons aussi.
Oui, donc, parce qu'ils se sentent peut-être plus compris ou ils partagent certaines valeurs.
De passion, de valeurs, passion. Tout à fait.
Et est-ce que vous avez en tête un modèle un peu révolutionnaire de façon de fonctionner d'un cabinet d'avocats?
En termes de management ?
Bah, à tout point de vue, oui, en termes de management, mais aussi vraiment un type de cabinet innovant, mais que ce soit en France ou à l'étranger, qui vous a marqué, vous vous êtes dit, mais c'est génial, il faudrait qu'on transpose ça au moins en partie ici.
Alors oui, alors je vais vous parler d'un cabinet d'avocats que j'ai vu à Helsinki, en Finlande, et c'était lors du Legal Design Summit. Bon, j'ai assisté aux ateliers 3 jours avant, donc j'ai fait 3 jours à Helsinki pour des ateliers de legal design pour conseiller des partenaires. Bon, moi, mon groupe est tombé sur un cabinet finlandais qui s'appelle Fondia, et on devrait, par groupe, c'était un avocat finlandais, une designer italienne et moi, conseiller comment ils pourraient innover. Donc on les a rencontrés, et là, la rencontre a été stupéfiante, parce que le cabinet est déjà extrêmement innovant. Donc, on est allé à leur cabinet, on a visité, les locaux sont sublimes, complètement adaptés forcément à la nouvelle génération, avec un café, des espaces de relaxation, enfin, vraiment très très bien équipés. Là, pour le coup, ils cochent toutes les cases, génération, les millennials. Et en plus de ça, c'est un cabinet déjà dans le modèle économique, est complètement innovant, c'est un cabinet qui est très récent, il a existé je pense depuis 2014, mais qui fait que sous-traiter les problèmes juridiques, les directions juridiques, donc ils sont focalisés là-dessus. C'est un cabinet, on parlait de management hiérarchique, ben pour le coup il y a zéro hiérarchie, il y a zéro associé, tout le monde est égalité, et ils sont quand même plus de 150. Et le fonctionnement... Ah oui, ils sont nombreux, c'est pas 4-5 personnes. Donc le fonctionnement du cabinet, c'est que tout se passe en mode projet. Il y a un client, un projet, il y a une équipe pour ça.
Avec un chef de projet ?
Il y a un chef de projet. Pour ce projet-là.
Mais qui change du coup ?
Systématiquement, ça change. Un autre projet, c'est un autre chef de projet. C'est à tour de rôle. Enfin, c'est pas tellement à tour de rôle. Ils nous ont expliqué que c'est en fonction des questions juridiques posées. Donc, s'il y a majoritairement, par exemple, de droit fiscal, ben, ce sera le fiscaliste qui sera le chef de projet de ce projet-là.
D'accord.
Donc, voilà comment c'est organisé. Donc, il y a des bureaux, mais les gens peuvent travailler de chez eux, l'espace de collaboration. Voilà. Mais tout se fait en collaboration. Il y a zéro hiérarchie. Et c'est un cabinet qui marche très bien, la preuve, ils sont à 150.
Oui, donc c'est la preuve qu'on peut adopter des nouveaux modèles et que ça peut fonctionner d'un point de vue rentabilité aussi, économique, viabilité.
Tout à fait. Et ce cabinet qui est déjà tellement innovant était partenaire pour nous demander une innovation.
Alors, c'était un petit peu le choc.
Ils sont dans la dynamique d'innover constamment. Et effectivement, la question qui se posait, c'est de dire, voilà, on était quand même très peu au départ, on est arrivé à 150. On recrute beaucoup, mais on n'a pas encore trouvé le système pour former tout le monde tout le temps. Parce qu'il y a tout qui change, mais les jeunes qui arrivent, on voulait les former déjà à la philosophie du cabinet. Les plus anciens, qui étaient des anciens associés de grands cabinets, hein, qui ont intégré, ben on voulait aussi les former aux nouvelles méthodologies, à la génération Y. On n'a pas trouvé la méthode. On est trop nombreux, on n'a pas trouvé la méthode. Et donc après 3 jours d'atelier, on leur a proposé un jeu. Ils ont un très beau café à l'entrée du cabinet où ils se retrouvent tous. Donc on s'est dit, ah voilà, tous les vendredis, vous vous retrouvez, ça va prendre 10 minutes, tout le monde est debout. Et c'est un jeu de plateau. Il y a un plateau avec différentes cases et des dés. Donc chaque avocat du cabinet doit jouer au jeu. Et avec différentes cases, un peu comme Monopoly, mais selon les dés, on peut tomber soit sur « vous faire 2 heures de formation dans telle matière » ou « vous avez gagné un week-end au golf de X ». Ou alors voilà, c'est un vrai jeu avec la mécanique de jeu, mais où on a mis tout ce qu'ils demandaient. Ils voulaient des formations, pas forcément juridiques, ils voudraient que leurs collaborateurs prennent le temps aussi de rencontrer des clients ou des prospects, etc. Donc on a mis dans toutes les cases leurs préconisations, mais là-dessus on a ajouté beaucoup de choses, comme par exemple des prix, des cadeaux, des journées de congé. On avait ajouté, bah voilà, par exemple, cette semaine vous avez droit à une journée de congé, etc. Donc selon les dés, on jette les dés, on a un certain chiffre, on tombe sur le chiffre 6, soit je dois me former à la dernière actualité en fiscalité, soit cette case, c'est vous êtes libre demain, restez chez vous. Après, on leur avait proposé, mais ça n'a pas fonctionné, mais on leur avait dit, mais est-ce qu'on peut pas faire un genre de bourse, manger une journée de congé, est-ce que tu peux l'échanger, etc. Donc c'est ce qu'on avait conseillé, parce qu'on s'est dit, si ça se trouve, je ne veux pas être en congé demain. Donc,
mais oui.
Même si on a été très très flexible. Mais ça, ils n'étaient pas d'accord. Bon, c'est peut-être les Finlandais. Hein, donc ils ont une autre vision aussi, culturellement, de voir les choses. Ils ont trouvé ça très très bien. Ils ont dit non. Par contre, dans le jeu, il faudrait qu'on fasse en sorte que tout le monde passe à la case se former ou rencontrer des prospects.
Voilà. Oui.
Donc on s'est dit, ok, ça on peut avoir un genre de schéma pour tout le monde et fait le tour.
Oui.
Ben, ils ont adoré, en tout cas ils nous ont dit qu'ils allaient le mettre en place.
C'est un bel exemple ça aussi.
Voilà, on fait le tour complètement de l'innovation, où là en l'occurrence c'est l'innovation où il y a zéro technologie pratiquement, à part effectivement, parce qu'ils travaillent en collaboratif, ils ont beaucoup d'outils collaboratifs. Mais il n'y a pratiquement pas de technologie là-dedans, vraiment pas.
Oui, donc ça montre que... Parce que c'est vrai que quand on parle d'innovation, on pense souvent aux outils technologiques, mais en fait, c'est pas uniquement ça. Pas du tout. Et je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut faire de façon très accessible,
voilà,
sans investir dans une technologie. Juste se dire, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle, aujourd'hui, pour améliorer un point de notre activité, de notre équipe.
C'est ça. Alors, un deuxième exemple en matière d'innovation... Là, ce n'est pas un cabinet d'avocats, mais c'est un cabinet d'experts comptables qui offre à ses clients, entreprises, chefs d'entreprise, etc., des mini Alexa. Donc, c'est une version, bien sûr, pas du tout de chez Amazon, hein, mais des versions beaucoup plus accessibles.
Pour ceux qui ne connaissent pas Alexa, est-ce que vous pouvez présenter ce que c'est ?
Alors, Alexa, ou une version aussi Google, c'est une enceinte connectée qui est interactive, hein, donc on peut poser des questions et elle nous répond. Enfin, elle nous répond parce que pour l'instant, elles sont
féminines.
Pour des raisons de neurosciences aussi, mais voilà. Donc on pose des questions et l'enceinte connectée nous répond.
Oui, ça peut être Alexa, quel temps il fait ? Donne-moi une recette de gâteau au chocolat.
Mets-moi en relation avec mon médecin. Voilà, c'était plutôt ce genre de choses-là. Ben, bien sûr, c'était le début des enceintes connectées. Aujourd'hui, on les utilise comme ça. Mais certains ont pensé à une version professionnelle. Ces outils sont configurés pour répondre à des questions comptables et juridiques en l'occurrence, mais ça aurait pu être un cabinet d'avocats qui aurait pu faire ça. Donc on peut configurer des questions juridiques et pour des questions du type quel est le taux de cotisation pour telle ou telle matière ou une actualité en fiscal. Tout ceci est configuré, c'est automatique, donc le chef d'entreprise, la DRH, peut poser cette question à l'outil et avoir une réponse automatique directement. Par contre, quand il y a une question juridique, en l'occurrence comptable, mais juridique beaucoup plus pointue, où on pose la question, voilà, tel dossier, dans telle matière, comment je dois réagir ? Ben là, Alexa répond, non, je n'ai pas une réponse à votre question. Par contre, je vous mets en relation directement avec Maître Intel du cabinet qui est spécialisé. Je vous l'appelle, je vous le passe.
C'est génial. C'est effectivement hyper innovant et en même temps hyper malin.
Voilà, et ça coûte pas cher.
Ça coûte pas cher et en même temps, ça doit bien marcher.
L'avocat peut être dans le bureau de son client. Tous les jours, tout le temps.
C'est un peu le Jiminy Cricket.
Voilà, exactement. C'est possible.
Finalement, c'est peut-être ça la solution pour tendre vers un cabinet ouvert 24 heures sur 24, puisque ça permet d'assurer un accompagnement du client, même si l'avocat n'est pas disponible. Bon, effectivement, pour l'instant, on parle plutôt de questions basiques. Mais si on imagine des développements, des questions juridiques plus poussées, ça pourrait être intéressant.
Voilà. Plus ils apprennent, bien sûr, c'est de l'intelligence artificielle avec le machine learning, c'est-à-dire plus Alexa, ou l'outil en tout cas, apprend, plus elle pourrait répondre.
Oui, elle s'améliore en étant utilisée.
Voilà. Et l'intérêt, c'est qu'elle est connectée à Internet. Donc, si on la configure pour que, par exemple, elle puisse... prend toutes les informations sur Légifrance, hein, ou, enfin, des sites complètement gratuits en ligne, elle peut se mettre à jour et mettre à jour complètement les données en temps réel.
Ouais, d'ailleurs, je ne lui ai jamais posé de question juridique à la mienne. Je vais essayer.
Ah, moi, j'ai essayé. Ça marche.
Ça marche pas. Suite.
Non. J'espère qu'un jour, hein, on aura une Alexa qui va intégrer quand même les questions juridiques de base. Hein,
ouais. Je parle, par exemple, sur un bail, des relations locataires, propriétaires, enfin, des choses du quotidien, quoi.
Ben, Amazon a quand même fait en sorte d'automatiser hein, pratiquement son service juridique, relation client. Donc, ils ont déjà fait pas mal de choses. Ils pourraient déjà, si ils arrivent à rendre public hein, ce qu'ils font déjà en interne, c'est déjà pas mal. C'est beaucoup de problèmes juridiques qui sont complètement réglés par Alexa, enfin par l'intelligence artificielle aujourd'hui.
En interne.
En interne. Le service juridique client de Amazon est totalement automatisé.
Donc, c'est une intelligence artificielle qui voilà. Répond, en fait.
Oui, 99% des questions, oui.
C'est fou.
Donc, ils pourraient transposer ça dans petite Alexa qu'on achète. Voilà, un partenariat à faire avec Amazon.
C'est ça. Et alors, quel conseil vous donneriez aux étudiants et aussi aux professionnels de droit qui nous écoutent pour embrasser le futur avec succès ?
C'est pas un conseil. Déjà, j'aimerais bien leur dire qu'on vit une époque formidable. extraordinaire. Vraiment. Ben, pour quelqu'un qui a 25 ans, aujourd'hui, c'est un monde extraordinaire. Tout est à refaire. Donc d'être totalement optimiste et de se dire, j'ai vu une époque formidable. Déjà, rien que ça. Mais aussi pour les professionnels. On peut tout rabattre, on écarte et puis on recommence. C'est extraordinaire aussi. Mais ce qu'il faudrait, c'est vraiment avoir cette vision quand même positive, ça aide, et il y a tellement d'opportunités, mais c'est d'être complètement ouvert d'esprit, et apprendre. Pour les étudiants, je leur dirais, ne faites pas que du droit, voilà. Sortez, faites autre chose, complétez votre formation. Essayez de lier votre passion, votre hobby, avec le domaine de droit que vous faites. Des fois, il y a des passerelles incroyables. Et c'est essentiellement une ouverture d'esprit. Pour les professionnels, c'est plus leur dire... Enfin, parce qu'on voit aussi beaucoup de gens qui sont réticents pour innover, etc. Mais on voit aussi beaucoup de gens qui pensent innover en faisant un peu n'importe quoi aussi. Donc, c'est de se renseigner aujourd'hui, sincèrement, par rapport au moment où moi j'ai commencé à évoquer ça, il y avait zéro littérature, il n'y avait rien, vraiment. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses, il existe des formations. Mais l'information déjà, sans se former, il y a déjà de l'information.
Et dernière question, quel conseil vous donneriez à un avocat ou autre professionnel du droit, jeune ou moins jeune, qui voudrait convaincre des associés ou patrons réticents à moderniser, innover leur pratique?
Alors, c'est vraiment pas facile, hein, parce que bon, nous, on a la chance, nos élèves, ils ont des cabinets qui, a priori, les prennent pour ça, donc c'est bien. Mais je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont confrontés à ça, beaucoup de jeunes. C'est pas facile, parce qu'ils veulent quand même rester dans le cabinet, il y a un enjeu, et ils sont pas bien. Ils savent qu'ils peuvent faire mieux, et on les comprend pas. Ça, je peux comprendre, ça arrive très très souvent. Alors moi, mes conseils, parce que je passe beaucoup de temps à échanger avec les élèves, et je leur dis, l'avocat, l'associé, le cabinet va changer les choses que s'ils voient un intérêt. Mais il faut que ce soit concret. Quelle que soit la situation, c'est d'expliquer l'intérêt. Et ça, c'est un bon réflexe, de toute façon. Il faut faire comme si l'associé du cabinet est votre client. Vous êtes jeune collaborateur, vous venez d'arriver, c'est votre client. Comment vous arrivez à convaincre votre client à changer, à mettre en place telle chose, à vous payer? Il faut avoir la même démarche envers l'associé. Donc vous allez avec des arguments, avec des vrais résultats, avec des constats. Voilà, tel cabinet a mis en place telle chose. Voilà, ils ont augmenté le chiffre d'affaires de 30%, etc. Prenez-le comme un vrai dossier de client. Voilà, et pas se plaindre en disant non, ils ont jamais fait ça, j'ai jamais osé demander, etc. Non, un jour vous levez, vous dites, l'associé est mon client, je dois le convaincre. Donc je leur demande à tous d'avoir des choses très détaillées pour bien démontrer que le fait de mettre en place telle ou telle chose, il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que le chiffre d'affaires. Il y a aussi la fidélisation des collaborateurs. Ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être l'image de marque du cabinet parce qu'on a un réseau. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'élèves qui ne comprennent pas que dans le cabinet, il n'y a pas de site internet. Voilà, ça, c'est extrêmement choquant pour eux. Oui. Ils savent faire maintenant des sites internet. Donc, ils peuvent faire. Ça ne coûte même rien, en fait. Et donc, de convaincre, de dire, OK, il n'y a pas de site internet, voilà ce qui se passe si on met un site internet, mais comme un vrai dossier de client. Et ça marche, vraiment. Bon, je ne dis pas que ça marche toujours, hein, mais la plupart du temps, quand c'est fait sérieusement, quand tu as une vraie démonstration, ça marche. Et on voit des élèves qui arrivent à faire des choses. Mais ça, en général, ce sont des élèves, des jeunes collaborateurs qui sont très passionnés et qui veulent aboutir. Donc. Mais je leur dis, ma technique... Et c'est comme ça que j'ai fait, moi. Quand j'ai dû faire l'école de l'innovation, je suis partie d'un papier, d'un stylo, j'avais rien. Et j'ai quand même un conseil d'administration, hein, donc il a fallu convaincre aussi.
Oui, justement, comment vous y êtes prise?
C'était pas facile, parce que je parlais de choses, des notions, et la moitié était en anglais, forcément, je parlais de blockchain, etc. Donc, personne n'avait jamais entendu parler de ces notions. Bah, j'ai fait comme une plaidoirie. J'ai plaidé, et j'ai expliqué, voici, ça c'est l'avenir. On est une école, on doit de toute façon former l'avenir. Peut-être que je me suis complètement trompée, mais on est obligé de faire un test. On est obligé. Après, on fera, et puis vous évaluerez, vous verrez. Mais en tout cas, on ne peut pas ne rien faire, ça, ce n'est pas possible. J'ai un conseil d'administration de 80 personnes. J'ai une mauvaise confiance.
C'est une belle plaidoirie.
Remercie. Oui, je les remercie. Mais je lui ai expliqué, là aussi, c'était un vrai, vrai dossier. Moi, j'ai triplé mon temps de travail. Ça coûtera de l'argent, etc. Mais bah, sinon, on ne sert à rien, en fait. Franchement, si c'est pour refaire la même chose que la fac, qu'est-ce que vous apprenez de plus que si vous achetez Dalloz en ligne? Rien.
Donc, pour convaincre, c'est vraiment être concret et préparer un dossier béton.
Comme un client. S'il ne voit pas l'intérêt, ça ne penchera jamais. C'est pas la peine.
Et sur quelle note vous aimeriez terminer cette interview?
Vous remercier, parce que vous m'avez écouté pendant tout ce temps-là.
Merci beaucoup. Merci à
merci,
vous.
Merci infiniment. Et puis, vraiment, vous souhaitez bon courage pour tout ce que vous entreprenez. Et vous souhaitez beaucoup de chance pour ce que vous faites. Mais je crois beaucoup en vous.
Merci beaucoup. Et merci pour ces échanges passionnants. Merci. Et je pense que ça passionnera aussi beaucoup d'autres personnes.
Merci.